à toutes et à tous, merci d'avoir choisi RFI. Il est 5h à Paris, 2h de moins en temps universel.
Léa Boutin-Rivière.
Dernière ligne droite avant les législatives anticipées en France. L'ultime débat entre les trois principaux blocs a eu lieu hier soir. Duel aussi aux États-Unis entre Joe Biden et Donald Trump à quelques mois de la présidentielle. Les électeurs iraniens invités aux urnes, mais sans conviction, la population est appelée à choisir celui qui remplacera le président Raïsi, mort dans un accident d'hélicoptère. Beaucoup de citoyens sont désabusés et comptent snober le scrutin. Dans ce journal également, plus que 24 heures avant la présidentielle, cette fois en Mauritanie et aux États-Unis, coup d'arrêt contre une mesure visant à protéger la qualité de l'air. Plus que quelques heures donc avant que le rideau ne tombe sur la campagne électorale en France. Ce soir, à minuit, silence avant les législatives de dimanche. Alors hier, les trois principaux blocs se sont affrontés pour un ultime débat. Jordan Bardella pour le Rassemblement National, face à Gabriel Attal pour représenter la majorité sortante et Olivier Faure pour le nouveau Front Populaire. Bilan des opérations, Victorien Villaume, toujours les mêmes désaccords de fond et une tension indéniable.
Le débat commence à peine quand Gabriel Attal saisit le sujet des fractures françaises pour attaquer vivement Jordan Bardella.
On ne peut pas construire l'apaisement et le rassemblement quand on présente plus d'une centaine de candidats pour lesquels on a trouvé des propos racistes, antisémites.
C'est faux, monsieur
ou homophobes.
Attal.
Monsieur Bourdoulex, qui a indiqué que Hitler n'a pas tué assez de tziganes.
Accusation grossière, dit Jordan Bardella, qui renvoie Gabriel Attal au bilan du gouvernement.
On est là tous les trois ce soir parce que les Français vous ont désavoué très massivement dans les urnes il y a quelques jours.
Au milieu, Olivier Faure dénonce un duel orchestré entre le RN et la majorité.
C'est un duo qui fonctionne depuis des années, où vous avez un gouvernement qui s'est choisi un adversaire, facile, commode, un épouvantail.
Le socialiste parvient tout de même à exister et s'en prend au projet du RN de supprimer le droit du sol.
Vous revenez en arrière sur des siècles d'histoire de France, c'est-à-dire d'une classe comme souvent dans ma circonscription l'autre jour. Je voyais ces petits Français avec vous, Premier ministre. Une partie d'entre eux ne seront jamais Français. Ils ne connaissent que la France.
Votre programme, monsieur Faure,
vous voulez
ouvrir les vannes de l'immigration. Dites-le aux Français.
Jordan Bardella invoque le sujet de l'immigration à de nombreuses reprises en tant que problème, y compris quand le débat porte sur la protection des personnes LGBT.
Et pendant ce temps, en marge du sommet des 27 à Bruxelles, le président Emmanuel Macron a dénoncé la parole désinhibée et la multiplication des propos racistes, antisémites et homophobes. Le chef de l'État a aussi pointé l'arrogance du Rassemblement national en tête dans les sondages et qui, selon lui, se partage déjà les postes de gouvernement. Ce sommet à Bruxelles qui se poursuit aujourd'hui avait un objectif majeur, désigner les hauts responsables de l'UE quelques semaines après les élections européennes. Pas de surprise majeure, Ursula von der Leyen a été reconduite à la tête de la Commission et l'Estonienne Kaja Kallas prendra les rênes de la diplomatie européenne. Ces deux nominations doivent encore être validées par les eurodéputés courant juillet et le résultat du vote n'est pas encore certain car les groupes des conservateurs, des socialistes et des centristes ont perdu du terrain face à l'extrême droite. Nouvelles opérations du Hezbollah contre le nord d'Israël hier. Le mouvement libanais a tiré des dizaines de missiles contre la principale base de défense aérienne de la région en réponse à des frappes israéliennes un peu plus tôt, dont l'une a tué l'un de ses combattants. La bande de Gaza est elle aussi toujours sous le feu israélien. Des dizaines de milliers de personnes ont fui hier dans le nord de l'enclave pour échapper à des frappes sur Gazaville. La guerre au Proche-Orient, sujet abordé par le président américain sortant Joe Biden et son rival Donald Trump au cours de leur tout premier débat en vue de la présidentielle, débat qui vient de s'achever. Le candidat républicain a accusé son adversaire démocrate de se comporter, je cite, « comme un Palestinien ». Les deux hommes ont aussi croisé le fer sur l'inflation ou encore le droit à l'avortement. Vous écoutez RFI, il est 6h34 à Téhéran, en Iran, où d'ici quelques heures, la population va choisir son chef d'État. Présidentielle anticipée après la mort du président Ebrahim Raïsi dans un accident d'hélicoptère en mai. Le pouvoir en place joue sa crédibilité après les législatives de février dernier, marquées par une abstention record, quasiment 60%. Un candidat réformateur a cette année, et contrairement à 2021, été autorisé à se présenter. Mais pour beaucoup, il ne s'agit que d'une façade, comme cette professeure iranienne qui a accepté de s'exprimer sous couvert d'anonymat. Elle a fait son choix, pas de vote pour elle ce vendredi.
Moi, je n'ai jamais voté, je ne voterai jamais sous la République islamique. Beaucoup de gens autour de moi, aussi bien de ma famille, mes amis, des collègues, mes étudiants, puisque je suis professeur, beaucoup de gens autour de moi ne voteront pas non plus. Mais je sais que certaines personnes dans le pays auront plus d'espoir que lors de la dernière élection, parce qu'il y a eu plus de débats entre les candidats. Personnellement, je pense que ce n'est qu'un jeu pour mobiliser l'électorat. D'ailleurs, il y a aussi des gens qui votent par obligation, parce que leur travail en dépend. Il y a aussi des réfugiés afghans à qui ils donnent des cartes d'identité pour qu'ils aillent voter.
Propos recueillis par Oriane Verdier, que l'on retrouvera à 7h, temps universel, pour faire le point sur ce scrutin. Et bientôt un nouveau chef d'État en Mauritanie. Enfin, le pays vient de rentrer dans sa période de silence électoral à la veille de l'élection présidentielle. Quasiment 1 800 000 électeurs appelés à choisir parmi 7 candidats, dont le sortant Mohamed Ould Razouani, favori du scrutin. À l'approche du vote, une question préoccupe la société civile. Comment préserver la fiabilité et la transparence de l'élection? Pour rassurer Léa Lisa Westerhoff, la commission électorale a rappelé plusieurs fois cette semaine les différentes mesures appliquées.
Dans chaque bureau de vote, chaque candidat pourra mandater un représentant pour assister aux opérations électorales, assure la CENI. La commission électorale rappelle aussi que cette année, tous les résultats des bureaux de vote seront rendus publics sur le site internet MyCENI. Mais du côté des acteurs politiques, des inquiétudes subsistent. L'opposition a réclamé la vérification biométrique du nom des électeurs pendant le vote, une demande que la CENI a jugé trop tardive et trop coûteuse. L'avocat Gourmo Abdoullo, conseiller juridique de l'un des candidats, craint également que les directeurs des bureaux de vote refusent, comme c'est arrivé par le passé, de remettre une copie du procès-verbal à chacun des représentants des candidats ou à afficher ses PV à l'extérieur des bureaux de vote, comme le prévoit la loi. Le gouvernement mauritanien a mis en place un observatoire national chargé de surveiller l'élection avec 600 observateurs déployés dans tout le pays, mais l'opposition questionne leur impartialité. L'Union africaine, elle, va envoyer 30 observateurs de court terme, la francophonie 6. Enfin, pas d'observateurs du côté de l'Union européenne qui déploiera 3 experts électoraux à la commission électorale. Léa Lisa Westerhoff, Nouakchott, RFI.
Mobilisation en demi-teinte hier à Nairobi, au Kenya. Quelques centaines de personnes seulement se sont rassemblées 24 heures après que le président Ruto a retiré le projet de loi de finances 2024 et les nouvelles taxes qu'il prévoyait. Mardi, une mobilisation d'ampleur inédite avait secoué le pays avant d'être réprimée dans le sang, dans la capitale notamment. Une mesure pour le climat mortenée aux États-Unis. La Cour suprême américaine a enterré ce jeudi un règlement de l'Agence de protection de l'environnement qui n'était même pas encore entré en vigueur. Le texte avait pour objectif de lutter contre la pollution de l'air. Une mesure de santé publique qui vient donc de connaître un coup d'arrêt radical, Simon Rosé.
C'est la troisième fois en 3 ans que la Cour suprême s'en prend à des règlements de l'EPA, l'Agence américaine de protection de l'environnement. La première fois sur sa compétence à prendre des mesures pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. La deuxième au sujet de la protection des zones humides. Et désormais cette dernière décision qui limite grandement la portée d'un texte sur la pollution de l'air. Le plan Good Neighbor, bon voisin, enjoignait les entreprises polluantes à limiter leurs rejets atmosphériques. L'EPA estimait que cette mesure permettait d'éviter l'émission de 70 000 tonnes de dioxyde d'azote et d'empêcher la mort prématurée de 1300 personnes d'ici 2026. Mais la réglementation n'était pas encore entrée en vigueur que déjà elle était contestée devant les tribunaux par différents États républicains et entreprises qui dénonçaient un règlement trop contraignant et coûteux à mettre en place. Fait rare, la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, s'est saisie du dossier alors que tous les recours légaux n'avaient pas encore été épuisés et avant même donc l'application du texte. Là aussi, c'est exceptionnel, ce qui fait craindre aux défenseurs de l'environnement que cette décision puisse encourager l'industrie à contester d'autres réglementations avant même leur lancement.
Simon Rosé, puis mauvaise nouvelle de plus pour le climat. Une fuite de pétrole a contaminé le fleuve Napo en Équateur. On ne connaît pas encore l'ampleur de l'incident, mais il inquiète déjà beaucoup, car ce cours d'eau est l'un des plus importants affluents de l'Amazone. Les populations locales pourraient donc être touchées. Pour éviter des dégâts trop importants, des barrages sont en train d'être mis en place afin de stopper l'avancée du pétrole. Les précédentes barrières avaient été dépassées par notamment des inondations. Merci d'écouter RFI. Dans une vingtaine de minutes, l'actualité africaine avec Edouard Dupénoët. D'ici là, merci d'être fidèle à la Radio du Monde.